J'ai retenu ce matin deux lectures pour nourrir notre méditation. Tout d'abord, dans l'épître de Paul aux Romains, nous lirons le début du chapitre 13. Épître de Paul aux Romains, le chapitre 13 commence en ces termes: que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Les gouvernants ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas craindre l'autorité ? Fais le bien, et tu auras son approbation, car elle est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte, car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée, étant au service de Dieu pour montrer sa vengeance et sa colère à celui qui pratique le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car ceux qui gouvernent sont au service de Dieu pour cette fonction précise. Rendez à chacun ce qui lui revient, la taxe à qui vous devez la taxe, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Et dans l'Évangile selon Matthieu, j'ai retenu un passage de la prédication de Jésus près de l'acte du Tibériade, qui, à mon avis, suscitera d'autres mines aussi perplexes que celles qui ont été provoquées par l'écoute de ce passage de l'Épître aux Romains. C'est au chapitre 5 de l'Évangile selon Matthieu, les versets 38 à 42. Jésus s'adresse à ceux qui sont autour de lui, il leur dit ceci: vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Seigneur, ta parole est la vérité, alors sanctifie-nous par la vérité. Amen. Ouvrons notre psautier français au psaume 138. Frères et sœurs, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 de ce psaume et levons-nous pour élever également notre chant.
Thank you.
Dieu notre Père, tu as les paroles pour dire que tu t'es mêlé à notre histoire, comme la semence se mêle à la terre, et que la transfiguration des vivants est bel et bien sur le point de s'accomplir. Dieu notre Père, tu as les paroles pour aimer jusqu'à l'offrande dernière, pour enfuir la puissance d'amour dans le cœur des vivants et en faire la charpente du monde à bâtir. Dieu notre Père, tu as les paroles pour agir selon la justice et la droiture, pour renverser les dominations qui internent la grandeur des vivants et pour donner à chacun mission d'évangile. Seigneur, toi qui as les paroles pour vivre, fais-nous entendre ta parole. Chers frères et sœurs, ne sont-ils pas sympathiques ces deux textes bibliques que nous avons lus ? En tous les cas, le moins que l'on puisse dire est qu'ils frappent l'imagination. Et je trouve que nous avons là deux textes bibliques qui nous permettent de tracer les contours de ce que devrait être une église assez attachante. Peut-être avec ses portraits, nous aurions là le contour de croyants qui formeraient des communautés composées de gens les plus soumis qui soient au monde. Et l'Église, peut-être, pourrait même devenir une sorte de rassemblement de joyeux masochistes qui, non contents d'avoir été giflés, tendent aussi une autre joue pour égaliser. L'Église ne devrait-elle pas être un club formé de ceux qui acceptent toutes sortes de brimades, de vexations, au nom de l'Évangile ? Le club des personnes dociles, qui acceptent tout, qui disent Amen à tout. En effet, si nous suivons les recommandations à la lettre de l'apôtre Paul, les autorités étant instituées par Dieu, s'opposer à l'autorité, c'est s'opposer à Dieu. Et résister, c'est nécessairement résister à Dieu, et l'on comprend bien que cela ne puisse se faire sans mériter une forme de châtiment en retour. Si nous suivons les recommandations de Jésus, eh bien, il apparaît que le mieux est encore de se transformer en une sorte d'ectoplasme sans consistance, sans aucune aspérité, qui prend la forme que l'autre souhaite lui imprimer. Malléable à merci, le croyant serait alors toujours, en toutes circonstances, la bonne poire de l'affaire qu'on peut malmener, la bonne poire qui accepte qu'on lui soutire tout ce qu'on veut de lui, sans la moindre objection. Bref, avec ces deux textes bibliques qui, je vous l'assure, figurent dans notre Bible, il semblerait que le croyant soit aussi bon pour courber l'échine devant l'autorité politique que pour s'écraser mollement devant la violence quotidienne. Chrétiens dociles, unissons-nous pour ne pas faire de vagues. Alors évidemment, cela vous fait un peu sourire, vous n'y croyez pas trop. Seulement, le problème, c'est que cela arrive fréquemment. Trop souvent, évidemment. La vérité est que cela arrive à chaque fois qu'une église devient un sanctuaire tout à fait hermétique au monde. Cela arrive à chaque fois qu'une église considère que les choses du monde ne la concernent pas. Cela arrive chaque fois qu'une église estime qu'elle a bien mieux à faire que de se préoccuper de ce qui se passe dans la société. Cela arrive chaque fois qu'une église estime qu'elle n'a pas à se soucier des vicissitudes du monde, qu'elle doit être au-dessus de cela, car il serait indigne de sa vocation qu'elle se préoccupât de ces choses, de ces basses besognes. La tentation peut exister, et elle existe toujours, de faire de la religion une sorte de bulle qui nous isolerait de notre environnement. Une bulle confortable, une bulle qui assure la sécurité, la protection, la sérénité, la tranquillité. Et lorsque cette tentation d'isolement ou de mollesse s'appuie sur ces textes bibliques, alors en vérité ce n'est pas de fidélité à l'Évangile dont il est question, mais plutôt de paresse intellectuelle et spirituelle. Parce que toute personne un peu sérieuse qui se sera penchée sur la prédication de Jésus telle que l'évangéliste Matthieu la rapporte dans les chapitres 5 à 7, saura que Jésus encourage le croyant à une exigence plutôt folle qu'à une sorte de passivité lénifiante. Et puisqu'aujourd'hui, notre culte peut être marqué par le souvenir, faisons mémoire, non pas mémoire d'un défunt, mais d'un jeune retraité. Un jeune retraité qui, il y a 20 ans, en l'église protestante de Saint-Nicolas, à Leipzig, organisait des prières pour la paix. Je veux parler du pasteur Christian Führer. Chaque lundi, depuis 1982, 6 ou 7 personnes se réunissaient pour un temps de prière en faveur de la paix. C'était l'époque où on parlait de missiles Pershing, de missiles SS-20. Et prier pour la paix lorsqu'on habitait Leipzig, ce n'était pas simplement une sorte de fantaisie. Toujours est-il qu'en 1982, il lance le principe d'une réunion de prière chaque lundi. Au début, ce n'était presque rien, 6 ou 7 personnes, vous ai-je dit. À peine un lumignon. Mais voilà que ce presque rien fut réputé pour être un espace de liberté, un espace d'espérance, une sorte de brèche dans un horizon qui, en permanence, venait buter contre ce mur édifié en 1961. Un mur édifié pour séparer l'Est de l'Ouest. 6 ou 7 personnes en 1982. 70 000 personnes le 9 octobre 1989. 120 000 personnes une semaine plus tard. 320 000 personnes la semaine suivante, le 23 octobre. Étant donné le nombre croissant de personnes, la Stasi, la police politique de l'époque, avait prévu de mater la contestation. Egon Krenz, le numéro 2 du régime, en charge des affaires intérieures, jure, je cite, de faire ravaler leur salive aux manifestants. De quoi les menace-t-il ? D'une répression digne de Tiananmen, qui est encore toute fraîche dans les esprits. Et le pasteur Christian Führer, lui, répète de ne pas céder aux provocations. Ni violence, ni jet de pierre, ni insulte. Nous sommes en plein sermon sur la montagne. Et cette fois, ce ne sont plus simplement de bonnes paroles. C'est une parole véritablement incarnée qui retentit à Leipzig. Les personnes sortent dans la rue, armées d'une bougie, pour prier en faveur de la paix. Et évidemment, la police ne s'attendait pas à cela. Elle est désarçonnée. Elle ne sait que faire. Elle ne sait pas comment réagir. Elle appelle la hiérarchie. La hiérarchie ne répondra pas. La suite, nous la connaissons tous. Le peuple pousse, les forces de l'ordre ne s'interposent pas, tout le monde pousse et le mur s'écroule. Pas simplement avec les paroissiens de Leipzig, mais ce phénomène de boule de neige produit cet effet que nous connaissons le 9 novembre 89. Alors bien sûr, la prédication de Jésus peut être comprise au premier degré comme une forme de sagesse qui encouragerait à supporter toutes les brimades parce que ce monde, cette vie, ne sont que transitoires vers un au-delà bien meilleur. Et la vie en Église, si nous lisons la Bible de cette manière-là, alors la vie en Église consisterait à apprendre à être plus endurant, pour mieux supporter les souffrances, encaisser les coups, les humiliations, sans broncher. Ça, c'est ce que le théologien Dietrich Bonhoeffer aurait rangé dans la grâce à bon marché. La prédication de Jésus s'inscrit au contraire dans ce projet de Dieu qui consiste à rendre ce monde-ci toujours plus habitable, toujours plus vivable, toujours plus agréable. La prédication de Jésus n'a donc pas pour fonction de nous anesthésier en quelque sorte. Elle n'a pas pour fonction de nous rendre insensibles au malheur, aux souffrances. Ou alors, elle n'a pas non plus pour fonction de nous faire prendre plaisir à ces souffrances-là et à faire de nous de véritables masochistes. La prédication de Jésus nous aide à être plus efficaces au service de Dieu. En 1989, la prédication de Jésus, relayée par ce pasteur de Leipzig et par bien d'autres, permet d'éviter l'escalade de la violence et permet donc d'éviter le bain de sang. Parce qu'évidemment, la moindre provocation des militants aurait aussitôt été suivie par l'exécution des menaces prévues. Cela signifie que cette prédication de Jésus, comprise sous cet angle-là, est un encouragement à ne pas pratiquer la mollesse, mais à pratiquer une forme d'éthique du changement, une éthique, un comportement qui aide le violent à changer, qui aide l'injuste à changer, en le déstabilisant, en le mettant face à des situations inédites qui l'obligent à réfléchir un peu, pour une fois. C'est une éthique qui s'efforce de rompre la spirale vicieuse de la violence. C'est une éthique qui s'efforce de ne pas répondre au coup par coup. C'est une éthique qui s'efforce de sortir de la logique de la violence et de la vengeance. Tu me crèves un œil, je t'en crève un aussi. Comme ça, nous sommes à égalité et nous avons trouvé un terrain d'entente. Cette éthique du changement, c'est essayer de faire entrer l'adversaire dans une autre logique que cette loi de la vendetta, de la réciprocité. Comme le disait Gandhi, œil pour œil, c'est un coup à finir tous aveugles. Et Jésus nous sauve de cela. Non pas en nous donnant une technique imparable, mais en nous encourageant à faire preuve d'une forme de créativité dans nos rapports humains, pour que toujours nous soyons dans une dynamique du don, qui est une façon d'être témoin actif de la manière d'être de Dieu. Je ne fais pas ceci parce que tu m'as fait cela. Je fais ceci parce que c'est un bien absolu. Et qu'en faisant cela, je te respecte, je te fais grandir, je te rends un peu meilleur. Alors, soit, vous direz-vous, on peut toujours essayer de changer les personnes. Après tout, c'est aussi ce que Martin Luther King a réussi aux États-Unis à grande échelle. Mais s'opposer à un pouvoir politique, ne serait-ce pas véritablement contradictoire avec ce que Paul écrit à la communauté de Rome? Ne devrions-nous pas, en toutes circonstances, acquiescer à ce que le pouvoir ordonne, puisque selon Paul, le pouvoir serait institué par Dieu lui-même? Faut-il obéir aveuglément au pouvoir politique? Je conviens qu'en vous posant cette question, je vous piège un peu, parce que je suppose déjà que l'Église, le croyant, et quelques liens à voir avec le pouvoir politique. Certains préféraient une rupture nette, aucun rapport, ne pas se préoccuper des affaires du dehors. Mais nous l'entendons bien avec Paul notamment, les questions politiques nous préoccupent. Alors je convoque Jean Calvin. Jean Calvin qui a la réputation de ne pas avoir été un joyeux démocrate. Ce n'est bien sûr qu'une fausse image. Le réformateur Jean Calvin achève son institution de la religion chrétienne en s'intéressant à cette question justement. Au chapitre 20 du livre 4, après avoir longuement insisté sur la légitimité du pouvoir, sur l'obéissance qui lui est due, disant que le magistrat, celui qui s'occupe des affaires de la cité, est en quelque sorte institué par Dieu dans sa charge, dans sa fonction, Calvin s'intéresse justement à l'éventualité d'une résistance à l'autorité. Vous imaginez un peu cela? Toute l'institution de la religion chrétienne qui se termine dans ces derniers paragraphes par la possibilité d'une résistance à l'autorité politique. Calvin est le premier à envisager une telle chose. Calvin est le premier à envisager une telle résistance. Et cela s'explique par le fait que Calvin est l'un des premiers à désacraliser le pouvoir politique. Dans sa perspective, si Dieu institue un bras séculier pour régler les affaires de la cité, pour maintenir la paix civile, il ne donne pas un mandat impératif à tel ou tel. Autrement dit, Calvin souligne la distance qu'il peut y avoir entre la mission de l'État d'une part et la manière dont cette mission est assumée par ceux qui en ont la charge d'autre part. Si un magistrat est défaillant, il perd toute sa légitimité et il n'est plus question de lui obéir. Pour reprendre les thèmes de Calvin, pour reprendre ses mots, celui-ci envisage la possibilité d'une résistance au pouvoir en place lorsque ce pouvoir est défaillant à l'égard de sa vocation d'assurer la liberté individuelle et le bonheur des citoyens. Alors ça, c'est Calvin qui le dit. Et vous pouvez estimer que Calvin a raison, mais que cela s'oppose à ce que Paul écrit dans sa lettre, et que c'est quand même a priori Paul qu'il faut écouter plutôt que Calvin. Alors observons de près l'argumentation de l'apôtre Paul, et constatons que pour lui non plus, les gouvernants n'ont pas un mandat impératif qui les exonérerait de rendre compte. En effet, sous la plume de Paul, les gouvernants ne sont à craindre que dans la mesure où leur action concourt au bien commun, ce bien commun étant en harmonie avec la volonté de Dieu. Alors cela soulève une nouvelle objection, évidemment. Est-ce à Dieu de dicter au magistrat ce qu'il doit faire? Et le magistrat doit-il conformer son action à ce que l'Église dit de la volonté de Dieu? Au XXIe siècle, dans une société laïque que nous chérissons, cela n'est pas évident de prime abord. Mais entendons ce que Paul essaie de nous faire comprendre. Il nous dit que l'acte politique, dans une perspective chrétienne, doit être recouvert d'une noblesse que parfois les citoyens lui retirent. Je veux dire par là que ce que Paul écrit au sujet de la sphère politique lui confère un surcroît de noblesse en la hissant au-dessus de la simple question technique d'établir des lois pour régler les injustices. Paul refuse de faire des magistrats de simples techniciens qui, un peu comme quelqu'un qui naviguerait à l'aveugle ou par gros temps, essaierait de rectifier à court terme ce qui ne va pas très bien. L'apôtre Paul injecte dans sa démonstration une instance qui est tout à fait décisive. C'est au verset 5, lorsqu'il parle de la conscience. Je vous recite ce verset qui, à première audition, peut un peu faire frémir. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. La conscience, n'est-ce pas justement ce qui nous évite d'agir aveuglément, comme des automates, comme des personnes dociles ? La conscience, n'est-ce pas ce qui nous rend justement responsables ? N'est-ce pas justement ce qui nous redresse ? N'est-ce pas justement ce qui nous permet de faire face et d'apporter un regard critique sur ce que nous entendons, sur ce que nous voyons, sur ce qu'on nous demande de faire ? En grec, la conscience relève du savoir commun, sun, oida, oida le savoir, sun avec. La conscience, c'est ce que l'on sait avec les autres. Eh bien, Paul valorise l'instance politique qui n'est plus seulement là pour faire la police, mais pour élaborer les possibilités d'un vivre ensemble, d'un vivre commun, harmonieux, qui fasse droit au degré le plus haut du bonheur au lieu de flatter les intérêts particuliers. Paul nous dit que l'instance politique est à valoriser parce que c'est elle qui nous permet de nous hisser au-delà de notre seule sphère de préoccupation. L'instance politique, c'est ce qui nous permet de nous relier aux autres. Dès lors, obéir, voire se soumettre aux autorités supérieures, c'est adhérer à ce principe qui veut que le bien commun est moralement supérieur à mon bien particulier. Se soumettre aux autorités supérieures, c'est reconnaître que mes intérêts personnels valent moins que l'intérêt du groupe, de la cité, de la société. Alors une telle soumission, dans la perspective de Paul, ce n'est pas une manière d'abdiquer devant plus fort que soi. Ce n'est pas une manière d'abdiquer devant plus puissant que nous. Et ce n'est surtout pas mettre sa conscience sous un mouchoir, bien au contraire. La conscience est l'instance même à travers laquelle le rapport que nous avons à la sphère politique est juste. C'est avoir en permanence à l'esprit que ma conscience est nécessaire pour juger le politique, pour vérifier que le pacte commun n'est pas trahi, ou, pour reprendre Jean Calvin, que les gouvernants ne trahissent pas malicieusement la liberté du peuple dont ils sont les tuteurs. C'est vrai qu'il est très facile, frères et sœurs, de faire de nos textes bibliques des oreillers de paresse, des motifs de nonchalance et d'abandon de nos responsabilités. Mais il me semble que, loin de nous engourdir, ces textes nous demandent plutôt de veiller activement, d'être attentifs, et même très attentifs, et de faire bon usage de notre compétence pour réagir à toutes les situations de vie. Loin d'abandonner la place publique, loin de nous faire prendre la tangente dès que les choses se compliquent, loin de nous faire baisser le regard. Notez comme cette phrase de Jésus est tout sauf de la docilité. Là où nous pourrions baisser les yeux face à la violence, Jésus nous demande de présenter une autre joue, de continuer à regarder droit dans les yeux. Eh bien, ces textes bibliques et tant d'autres que nous aurions pu convoquer en leur compagnie nous incitent à faire face en toutes circonstances, à ne laisser personne d'autre que nous affirmer ce qu'en leur temps les habitants de Leipzig ont proclamé haut et fort : nous sommes le peuple. Amen.